VCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h aujourd'hui. Autour de la table, Monique Couteau qui va revenir sur le dernier conseil municipal de septembre.
Oui, je donnerai la réponse à quelques questions orales que nous avions posées et une information sur SNL.
Sera suivi de Clément qui va nous parler du peigne.
Oui, drogue, violence, prostitution, enquête exclusive dans les coulisses des boulangeries. Ou sinon, je vais juste vous parler du pain.
Bon, Jean Barbare, 4, 5, 6, cueillir des républiques.
Oui, aujourd'hui, on va parler d'un record français, celui du gouvernement le plus rapide de la 5ème République. 14 heures d'existence, plus éphémère qu'une promesse de campagne.
Marilyn Nanaspez reçoit aujourd'hui Agnès Delcourt pour nous parler de son exposition actuellement au local de Vivons Chaville Ensemble.
Agnès Delcourt qui va présenter des photographies d'un vidéaste et photographe palestinien. Donc dans le thème des enfants de Gaza. Et ensuite, je parlerai pour la rubrique La Culture, la rentrée littéraire 2025-26 de la médiathèque.
Tout de suite, dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Sur la rentrée de la petite enfance et des classes.
Oui, ça faisait partie et ça fait partie des questions qu'on pose tous les ans, d'avoir le point fait sur les effectifs, les problèmes éventuels, etc. C'est quand même absolument nécessaire d'avoir ces informations-là. Et si on s'est rendu compte que si on n'en faisait pas la demande écrite, en question orale, on ne les avait pas. Donc, pour la petite enfance, 148 places en structure collective municipale, avec la crèche des petits chênes, la crèche des noisetiers et le jardin d'enfants, auxquels s'ajouteront 33 berceaux à la chaloupe au printemps 2026. Et en fin septembre, il restait 72 familles en liste d'attente. Il faut ajouter aux places en crèche collective publique 46 assistantes maternelles qui s'occupent de 113 enfants et 14 assistantes parentales pour 28 enfants. Ajoutons également les crèches associatives et les crèches privées. À noter qu'il a été dit que pour le futur établissement des jeunes enfants à Manérolles, on ne savait pas encore quelle serait sa nature, ce qui me semble un recul par rapport à ce qui nous avait été dit précédemment où on avait clairement parlé de crèche. Pour les classes, il y a eu ce qui était prévu, une fermeture de classe élémentaire à Ferdinand Buisson, une ouverture en maternelle au Muguet. Pour le privé, l'école Montessori conserve 54 enfants, comme l'an dernier. Très difficile de les classer entre maternelle et primaire, puisque les enfants accueillis à l'école Montessori ont entre 2 et 11 ans. Pour Saint-Thomas, tout niveau confondu, 1369 élèves, 87 en maternelle, 202 en élémentaire, 664 au collège et 416 au lycée. Soit pour le primaire, plus 3 élèves, pour le collège, plus 5, pour le lycée, plus 5 également. Pour le périscolaire public, il manquait encore quelques animateurs. Alors les effectifs pour les 5 maternelles publiques sont de 594 élèves, soit plus 6 élèves par rapport à 2024. Pour les 3 écoles publiques élémentaires, 917 élèves, soit 25 élèves de moins qu'en 2024. En tout donc, 1511 élèves dans les structures publiques. Collège Jean Moulin, pareil, une baisse, 584 élèves. Il y en avait 595 en 2024. C'est intéressant de voir l'évolution sur 10 ans. En 2015-2016, les effectifs en maternelle publique étaient de 694 enfants. Donc il y en a 100 de moins aujourd'hui. Et 1101 en élémentaire, il y avait 749 élèves au collège Jean Moulin, hein, c'est-à-dire en tout 2544 élèves pour le public il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 2095. Ce qui nous renvoie à la question de l'attractivité de la ville pour les familles avec enfants et à la question des loyers, en plus du fait général de la baisse de la natalité. Il y a toujours, dans les difficultés soulevées par les familles, des difficultés à obtenir une place au centre de loisirs de leur choix. Il nous a été répondu qu'il y avait beaucoup de demandes sur Paul Bert et que donc les difficultés au jour de fin septembre concernaient 34 familles en maternelle et 45 en élémentaire.
Merci pour ces précisions. Et sur le projet de rénovation du Doisu et les inquiétudes des riverains quant au futur immeuble qui sera construit à la place du gymnase Alimi.
Alors il paraît que Haute-Seine Habitat travaille à la concertation. La réunion du 3 juillet a présenté un projet au gabarit inférieur au PLUI, a dit la mairie. La fin de chantier est prévue pour 2033 et on n'a pas eu de réponse sur notre demande d'une réunion avec les habitants du quartier, de l'ensemble du quartier, y compris ceux, bien sûr, de la rue de la Fontaine Henri IV.
Question 3 sur les logements vacants.
C'est un sujet long et frustrant, d'après le maire adjoint. On en est toujours à 5 logements identifiés. Pour 4 d'entre eux, on attend toujours les réponses des propriétaires. Pour le 5e, il va mettre en vente. En général, les propriétaires de logements vacants ne sont pas spécialement enthousiastes à l'idée d'avoir une relation avec, par exemple, SNL ou Habitat Humanisme, c'est-à-dire de permettre que leur logement devienne un logement temporaire, passerelle, pour des familles en difficulté.
En ce qui concerne le grand projet de géothermie et notamment les jardins familiaux.
Alors, effectivement, sur l'emplacement des jardins familiaux du Val Saint-Olaf, ce sera normalement la base de vie pour le chantier. Dans le cahier des charges, il est précisé que le titulaire du chantier devra restituer en état à la fin des travaux, donc y compris avec la pleine terre, etc. Et que pour l'instant, il était étudié des possibilités de parcelles ailleurs, alors à Châtresac, au Jardin de la Brise, en 2026 à Manérolles, pour essayer de que les familles qui ont un jardin ne soient pas privées de leur récolte pendant un an. Ceci dit, sur cet espace du Val Saint-Olaf, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le centre équestre où il y a 500 adhérents. Et effectivement, le centre équestre va également être perturbé par la durée des travaux.
Tu voulais terminer ta chronique en parlant de Solidarité Nouvelle pour le Logement.
Oui, je voulais donner une bonne nouvelle pour Solidarité Nouvelle pour le Logement. À Chaville, l'association a acquis un 10e logement. C'est important parce que ce sont des logements passerelles qui sont loués à des personnes en difficulté à un tarif accessible avec un bail d'un an renouvelable. Chaque famille est accompagnée par un travailleur social professionnel de l'association et deux bénévoles qui assurent l'accompagnement de proximité, une écoute et un soutien. Et SNL s'engage à accompagner les familles jusqu'à l'accès à un logement social durable, en général au bout de 3 ans. Autre sujet concernant cette association, fin décembre 2024, le Conseil régional Île-de-France a décidé l'arrêt des subventions pour l'acquisition de logements sociaux. Cette subvention représentait 12 à 15% du financement d'un rachat. C'est pourquoi l'association est à la recherche de bénévoles et de donateurs. Et je voulais ajouter aussi deux informations que je vais faire tout de suite. C'est pour vous inviter à aller au cinéma. À l'Atrium, le mercredi 19 novembre à 20h, voir Mon Inséparable, qui est un film qui pose la question de la santé mentale. Et vous savez que la santé mentale a été faite grande cause de l'année 2025. Et le 26 novembre, à l'Atrium toujours et dans le cadre d'Alsès, un film sur la sécurité sociale alimentaire. Les deux sujets sont d'importance.
Merci beaucoup pour ces précisions, Monique. On passe tout de suite à la chronique à table. À table avec Clément Chassin.
Bonjour Chaville, il est 8h. Alors, si vous nous écoutez en ce moment, peut-être que vous trempez une tartine de pain dans du café. Si vous profitez de la pause de midi pour nous écouter en podcast, il y a sûrement du pain sur la table, à moins que vous ne mangiez un sandwich. Ou peut-être que vous êtes déjà au goûter, et alors, quoi de mieux qu'une tranche de pain ? Le pain, c'est la base de notre alimentation. On le retrouve partout et c'est une base de la culture française, hein, on peut le dire. Voilà, on en mange beaucoup, on en produit beaucoup. On a la chance à Chaville d'avoir encore pas mal de commerces locaux, de petites boulangeries, de boulangers qui font leur pain. Voilà, et on en gâche beaucoup aussi dans les poubelles des particuliers, dans les poubelles des boulangeries, des collectivités, des sandwicheries, tout ça. On trouve des kilos et des kilos de pain qui sont jetés tous les jours. Et ça me fend le cœur. Voilà, mais alors pourquoi on jette autant de pain ? Ben, c'est le prix à payer pour avoir la baguette blanche, là, toujours fraîche et croquante. Est-ce que c'est une fatalité ? Bonne question. Et d'abord, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange quand on mange du pain ?
C'est-à-dire à l'intérieur du pain ou ce qu'on y
alors,
met ?
Alors, c'est quoi le pain ?
Le pain, c'est de la farine.
De la farine.
De l'eau.
De l'eau.
Du sel.
Du sel et
Et des fermes, des... Oui,
il faut que ça lève, ça, donc de la levure. Un levain, voilà. Alors, c'est quoi le levain ? Alors, le levain, traditionnellement, tu prends de la farine, de l'eau tiède, tu mélanges, tu laisses à l'air libre, tu couvres avec un torchon, et le lendemain, tu remets un petit peu pour le nourrir, le lendemain, tu remets un petit peu pour le nourrir, le 5 jours.
Ah oui, il faut attendre, il faut être patient.
Ah bah oui, 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 il faut être patient. Et naturellement, tu as des levures et des bactéries qui vont se développer.
D'accord.
Et c'est ça, le levain naturel, qui est traditionnel. Mmh. Et ensuite, on prélève un tiers pour faire ton pain et tu rajoutes de la farine.
Pour que ça aille plus vite pour les suivants, peut-être, non ?
Oui, alors une fois que ton levain est fait, il faut juste le nourrir régulièrement. D'accord. T'en prélèves régulièrement, tu le nourris régulièrement et c'est un organisme vivant qui va, que tu peux faire vivre pendant des années. Voilà, donc les boulangers traditionnels, avant, avaient leur levain et faisaient vivre leur levain, voilà. Et du coup, chaque boulanger avait, son levain et du coup, chaque pain avait son goût aussi, ça donne un goût, tout ça, voilà. Donc, c'est un organisme vivant. Donc, comme tout bon organisme vivant, avec des levures et des bactéries, ça réagit à la température, ça réagit à l'humidité, ça réagit à plein de choses. Donc, le temps de levage, le temps de pétrissage peuvent varier. Donc, eh ben, c'est pas très compliqué, il suffit que le boulanger s'en occupe. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'avant, les boulangers se levaient à 4h du matin, pétrissaient à la main. Et enfin voilà, c'était une vie
Il y avait du pain sur la planche.
Il y avait littéralement du pain sur la planche. Voilà, et un jour, merci Pasteur, qui ne s'est pas occupé que de la rage, il a aussi...
La pénicilline.
Non, la levure.
Ah d'accord,
la levure, et donc là, ce qui est bien avec la levure, c'est que ça réagit toujours de la même façon. Donc, on sait combien de temps de levage, on sait combien de temps de pétrissage, donc on peut utiliser un pétrin électrique qu'on peut programmer, et donc quand le boulanger il se réveille, maintenant le pétrin électrique il a déjà lancé le pétrissage, gain de temps, d'énergie et tout ça, le boulanger n'est pas obligé de se lever à 4h du matin, tout ça, c'est formidable. Pourquoi je suis pas content ? Pourquoi je suis pas content ?
On attendait la chute.
Eh bien oui, la chute. Et bien là, voilà la chute. Par contre, la levure, pour que ça lève bien, il faut des blés qui sont riches en gluten.
D'accord.
La levure va réagir avec les blés modernes. Donc, on a sélectionné des blés modernes qui sont bien riches en gluten. Ouais. Alors, plus ça va, pire c'est. Hein. Donc, maintenant, on a des blés sursaturés en gluten. Et je vais m'arrêter sur les blés modernes parce que, voilà, c'est pas intéressant. Vaut mieux parler du levain. Donc, que faire ? Parce que si on veut pas manger du pain sursaturé en gluten, tout ça... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'oblige un boulanger à se lever à 4 heures du matin pour me faire mon petit pain à moi ? Donc, pour autant, moi, je mange du pain au levain naturel qui est fait par un paysan boulanger. Donc, paysan boulanger, ça veut dire qu'il fait pousser ses céréales et il les transforme lui-même. Voilà, donc il maîtrise vraiment toute la chaîne. Donc, un paysan boulanger local, hein, il est à la Selle-les-Bordes, donc vers Rambouillet, et qui fait du pain au levain naturel. Alors, comment on fait du pain au levain naturel en 2025 ? Eh bien, comme je disais, c'est un élément vivant, le levain. Du coup, ça réagit à l'humidité, à la température, tout ça. Eh bien, alors lui, il a trouvé la solution. Il a mis des capteurs dans son levain. C'est géré par un ordinateur qui règle la température, l'humidité. Et du coup, il se retrouve avec un levain assez stable. Et donc, il peut se permettre d'utiliser un pétrin mécanique, tout ça. Voilà. Donc, les blés modernes lèvent mieux avec la levure. Mais avec le levain naturel, vaut mieux des variétés anciennes, qui du coup sont moins chargées en gluten, donc plus digestes. En plus, le levain, comme je disais, c'est des levures, des bactéries, il y a des enzymes qui dégradent le truc, tout ça. Et en fait, le levain naturel commence la digestion du pain. Donc, le pain au levain naturel est plus digeste que le pain à la levure, et aussi plus nourrissant. Le levain, c'est quand même un élément vivant, ça tient encore. Non, mais c'est effectivement, c'est des levures, c'est des bactéries, c'est nourrissant, c'est vraiment nourrissant. Voilà, c'est pas juste des sucres rapides, parce qu'il faut être honnête, la baguette blanche, c'est des sucres rapides. Et ça se conserve mieux. Alors d'ailleurs, hop, j'ai ramené, il me reste un bout de pain, et bon, qui devient un peu dur, mais bon, voilà, on voit que l'intérieur est encore souple. Ça fait 10 jours que je l'ai. Et je le garde, il est comme ça sur ma table. Hein, et là, tu vois, c'est mou. La mie est encore molle. Ça, c'est du pain au levain. Ça se conserve au moins une semaine sur la table, sans problème. Alors qu'une baguette, le lendemain, elle est foutue. Quoi. Donc voilà, donc effectivement, il a fallu que je change un peu mes habitudes. Donc moi, je ne crois plus que la baguette blanche soit le graal ultime. Voilà, moi, je préfère un bon pain fait avec soin par un paysan boulanger local qui, en plus, prend soin de l'environnement, effectivement, parce qu'en plus, c'est un paysan boulanger bio. En plus, il fait des pains qui sont super bons. Et si vous me dites que le pain au levain, c'est cher, eh ben moi, je vous dirais oui, mais arrêtons de jeter du pain. Voilà, faites du pudding, faites des
pain
croutons,
perdu.
Pour la, du pain perdu,
du pain
des
perdu,
croutons
de la
pour
farce.
La soupe, de la chapelure,
la farce.
De la chapelure, ça m'a, je trouve ça ahurissant que les gens
le
jettent du pain et achètent de la chapelure dans les magasins.
Hey.
Faites de la chapelure vous-même, voilà.
Ouais,
donc, si on ne jette rien, c'est pas si cher que ça.
Merci beaucoup Clément pour cette découverte du pain. Et maintenant, on enchaîne avec Jean Barbare.
De tout et de rien avec Jean Barbare.
Bonjour à tous. C'est l'histoire d'un gouvernement plus rapide qu'un espresso au comptoir. Nommé le 5 octobre, démissionné le 6, réappointé le 10. Oui, Sébastien Lecornu est de retour à Matignon après avoir offert à la 5e République son gouvernement le plus éphémère. 14 heures chrono entre vitrine et fermeture. Record battu, ambiance boutique éphémère où chacun veut être calife à la place du calife, pendant que le budget attend toujours son heure de gloire. Contexte. Depuis les législatives de 2024, l'Assemblée est coupée en trois blocs irréconciliables. Pas de majorité absolue, des motions de censure en bandoulière et une culture du compromis introuvable. Bienvenue dans la crise politique Made in France saison 2024-2025. Alors, pourquoi ce va-et-vient à Matignon ? Parce que l'hyper-présidence sans majorité, c'est comme une voiture de sport sans volant. Ça file tout droit dans le mur. La cinquième a été pensée pour un exécutif fort. Avec le quinquennat et l'inversion du calendrier, on a fini par sacrer le président chef de tout. Sauf quand l'Assemblée ne suit plus. D'où la paralysie. Les 49-3 en série et la tentation de gouverner par acrobatie procédurale. Cette monarchie présidentielle nourrit un sentiment d'irresponsabilité au sommet et de dégoût en bas, abstention record, défiance XXL. Résultat, en quelques heures, le premier gouvernement Lecornu s'est évaporé. Et 4 jours plus tard, revoilà le même Premier ministre, par devoir, pour tenter de tricoter une majorité introuvable et livrer un budget avant la Saint-Glinglin. Les oppositions, elles, promettent l'orage dès la déclaration de politique générale. Popcorn obligatoire pour tout le monde. Face à ce théâtre baroque, c'est le monde qui le dit, la question fuse. Et si on changeait carrément de pièce ? Les partisans d'une 6ème République plaident une refondation démocratique. Redonner de vrais muscles au Parlement, remettre le président à sa place d'arbitre, responsabiliser le gouvernement devant les députés, et surtout, ouvrir les portes à la participation citoyenne. RIC, convention, tirage au sort, avec les outils numériques pour amplifier la délibération. Dit autrement, on veut passer de Jupiter à coalition, de la verticalité à la négociation. Mais attention au mirage, changer la constitution sans changer les mœurs politiques, c'est repeindre la façade en laissant les tuyaux fuir. Un régime parlementaire sans culture du compromis, c'est le retour de la valse des ministres. Les constitutionnalistes le martèlent, sans mécanisme de stabilité, motion de censure constructive, ordre du jour partagé, encadrement du 49-3, et sans apprentissage de la coalition, on transformera l'Assemblée en round permanent de boxe française. Et nous là-dedans. On ne va pas attendre que le prochain calife nous trouve un tapis rouge. La démocratie ne se résume pas à déposer un bulletin tous les 5 ans et à râler les 1824 jours suivants. Les outils existent déjà. Les plateformes de consultation, les pétitions recevables, le budget participatif, les conventions locales, la civic tech. Il y a éventuellement une 6ème République qui pourrait constitutionnaliser ces pratiques, mais on ne peut déjà les faire vivre ici et maintenant avec exigence sur la transparence et la reddition de comptes. Conclusion. Notre régime tient debout sur une contradiction, une présidence conçue pour décider vite et un parlement devenu incontournable. Mais ingouvernable, faute de majorité. Tant que la politique restera au sport de combat où l'on bloque tout par principe, la France restera en impasse. Que l'on soit en 5ème République ou qu'on passe en 6ème, il faudra apprendre l'art du compromis, sinon on continuera d'aligner des gouvernements éditions limitées. Et les éditions limitées, vous savez, ça coûte cher en crédibilité.
Merci beaucoup Jean Barbare. On va passer tout de suite maintenant à un petit peu de culture avec Marilyn.
À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Donc je vais vous parler d'une exposition de photos, Les enfants de Gaza, qui a été installée le 11 octobre dernier. Donc c'était le vernissage. Et pour au local de VCE, bien sûr. Pour cette 7e édition du genre, nous présentons pour la première fois des photographies, puisque si vous souvenez bien, les autres fois, c'était de la peinture. La peinture et des installations plus ou moins sculptures. Donc, les murs tendus de tissu accueillent une trentaine de portraits, les enfants de Gaza, réalisés par le photographe et vidéaste palestinien Fadi Tabe. Les visages qu'il montre sont beaux, dignes, malgré les événements tragiques de la bande de Gaza. La ronde des enfants s'ouvre et se ferme avec une vue de Gaza avant les conflits et actuellement une Gaza détruite. Donc, le vernissage a rassemblé une quarantaine de personnes autour d'Agnès Delcourt, qui a coordonné cette exposition et qui a prononcé un discours très émouvant. D'ailleurs, présente ici, nous allons lui poser quelques questions. Alors, Agnès, comment as-tu connu Fadi Tabe ?
Déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aussi gentiment comme vous le faites à chaque fois dans cette radio formidable, avec ces gens formidables. Bon, bref. Alors, Fadi, en fait, c'est un peu le hasard, mais enfin, un hasard un peu provoqué. J'ai écrit la pièce Enfant fantôme en 2023-24. Elle a été créée en 2024 avec 4 tableaux. L'idée, c'était de parler des enfants dans des situations de conflit. Donc, il y avait 4 tableaux, un sur le Yémen, un sur la Syrie, un troisième sur la rafle du Veldiv et le quatrième sur la Russie, ouais, l'Ukraine plus exactement. Et évidemment, après le 7 octobre et la répression terrible du gouvernement israélien, j'ai eu envie d'écrire sur Gaza. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. On a été sélectionnés pour le Festival de Paris. Je leur ai expliqué que ça me tenait à cœur de parler de Gaza, mais je ne savais pas trop comment. Et on m'a mise en relation avec un photographe, donc Fadi, une des metteurs en scène qui participait au festival le connaissait bien. Alors, merci les réseaux sociaux, parce que par Instagram, c'est extrêmement facile. Je l'ai contacté. Il a été tout de suite d'accord pour céder quelques droits de ses photos gratuitement, parce que j'avais besoin de ses photos aussi pour illustrer, pour faire la scénographie de la pièce. Et donc, la pièce a été jouée ensuite à Paris, avec ce nouveau tableau, et au Festival d'Avignon cet été, pendant 10 jours. Voilà. Et Fadi, je communique avec lui presque tous les jours. Enfin, en tous les cas, il me donne des nouvelles parce que c'est quand même très, très éprouvant, hein, tout ce qui se passe là-bas. Et donc là, j'ai choisi de parler des enfants et de montrer surtout des enfants avec des regards très profonds et pleins de vie. Parce que c'est ce que veut aussi Fadi, montrer une Gaza résiliente et qui continue à vivre malgré tout. Voilà.
Alors, en dehors de ces photographies de la vie à Gaza, la vie actuelle, donc, parce qu'il faut continuer à vivre, que fait-il ? Est-ce qu'il a d'autres types d'actions ?
Alors, en fait, Fadi, il a été formé comme photographe et il a commencé sa carrière comme photographe artistique. Il faisait des photos, des portraits d'artistes aussi. Voilà. Et puis très vite, il s'est intéressé aux camps de réfugiés et aux enfants, aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, aux plus fragiles en fait. Et très vite, il a commencé à travailler pour Al Jazeera, pour Médecins sans frontières, pour l'ONU, enfin l'UNRWA, etc. Et ses photos, il a exposé dès 2007, il exposait à New York, il a exposé un peu partout. Et puis, depuis le 7 octobre, c'est vrai que il avait sa carte de presse, il a endossé le gilet presse. Maintenant, il l'a retiré, bien évidemment, puisque, comme on sait, il y a énormément... Enfin,
les gens sont
devenus des cibles. Il y a plus de 256, je crois, on en est aujourd'hui, de journalistes tués dans la bande de Gaza. Donc, pour l'instant, il est très discret sur l'endroit où il se situe, parce qu'il a une famille aussi à protéger. Il a marié sa fille récemment, qui est dentiste, qui vient d'être diplômée, qui est dentiste. Voilà, donc lui, son idée, c'est... Enfin, son idée, non. Sa vie se résume à témoigner à travers ses photos. Et puis, en parallèle, il s'occupe des familles les plus démunies, parce que en fait, par exemple, le prix du kilo de farine, c'est 25 euros actuellement. Donc, il essaie de récolter comme ça. Certaines expositions ont pu être organisées il y a déjà plus d'un an, en Italie, au Royaume-Uni, en France, c'est un peu compliqué. Donc là, il est très, très heureux. Je lui ai envoyé une petite vidéo après le vernissage. Il est très heureux de voir tout ça. Et puis, lui, avec cet argent, il s'occupe de à peu près une trentaine de familles de déplacés. Et dès qu'il reçoit un peu d'argent, il peut aller acheter des vivres avec ses amis. Ils font des petits paquets, c'est très émouvant, des petits sachets en plastique. Et puis à chaque fois, il me montre, il y en a autant. Puis la fois suivante, il y en a un petit peu plus. Et puis ils sont un peu plus remplis. Voilà. Donc c'est très, très émouvant.
Et donc ici, à Chaville, nous faisons cette exposition. Et on peut contribuer à cette action.
Oui, bien sûr, oui. Alors... On a déjà, nous, avec la compagnie, organisé des collectes via Hello Asso, parce que ça fonctionne très, très bien. Donc là, c'est pareil, on a encore ouvert une collecte qui s'appelle exactement, on la trouve facilement sur Hello Asso, c'est Compagnie La Filiade, collecte, exposition Fadi Tabet. Il est possible aussi d'acquérir un visuel de l'expo, et puis l'argent ira directement aux familles.
Merci beaucoup, merci Agnès Delcourt, une bonne exposition,
merci
Marilyn Lanaspez, évidemment, venez nombreux et nombreuses découvrir ce photographe et vidéaste, c'est tous les samedis après-midi de 14h à 17h au local VCE.
Et ce jusqu'au 15 novembre.
Jusqu'au 15 novembre, tout à fait.
Bande annonce avec Marilyn Lanaspez.
Aujourd'hui, dans la chronique culture, je vais également vous parler de littérature. Le même jour, le 11 octobre, c'était la rentrée littéraire à la médiathèque, donc en partenariat avec la librairie de La Pointe. Alors, c'était quoi ? Bon, les bibliothécaires et deux libraires ont sélectionné les ouvrages, les coups de cœur. Donc sur à peu près 16 romans, parmi lesquels il y avait de la littérature française, bien sûr, étrangère, des primo-romanciers, des auteurs déjà reconnus qui avaient écrit peut-être deux ou trois romans. Elles ont parlé de chacune à leur tour, puisque c'était que des femmes, de leurs bouquins préférés, parfois deux. Il y en a eu la moitié, en gros, 8 bouquins, que l'on pouvait acheter à l'issue de cette très agréable soirée. Alors, chaque fois, des extraits ont été savamment lus par des comédiens de la troupe du Reptile Cambrioleur. C'était truculent parfois, très, disons, triste, en tout cas, gestuel. C'était vraiment très intéressant. Un moment délicieux. Si vous souvenez de la présentation que j'avais faite du prix des libraires en scène 2025, je me demandais si les romans qui avaient été sélectionnés pouvaient faire partie de cette sélection qui aura lieu en novembre. Donc il m'a été assuré qu'il n'y aura pas vraiment de lien avec cette édition 2026. Bah oui, parce qu'il y a une sélection d'un côté... Et l'autre sélection est faite par 15 librairies de tout l'Ouest parisien. Donc, ce n'est pas Chaville uniquement, quoi.
Pour savoir, pour souligner aussi le travail qui a été fait par les bibliothécaires et les libraires, tu dis qu'il y a 16 livres qui ont été sélectionnés, qui ont vraiment retenu leur attention. Sur combien ? Parce que la rentrée littéraire, c'est... des centaines
ça,
et des centaines de livres.
Je n'ai pas les informations. Je peux me renseigner. En tout cas, ils ont édité un livret avec les 16 romans qui étaient donc les coups de cœur de ces personnes.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté Radio VCE. On se retrouve évidemment lundi prochain, comme tous les lundis à 8h du matin. C'était Jonathan Denuy sur Radio VCE.